Conexión, conexión, conexión. Afrique, conexión avec Aïssa Tiam.
Ambiance Afrique, c'est l'Afrique qui bouge à Paris.
Allons-y avec notre première invitée de la matinée. J'accueille Nolda Di Massamba. Bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Nolda, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi porte-parole de l'association Mouvement du Peuple Congolais. Vous êtes venue nous parler d'un film documentaire d'une durée de 52 minutes que vous avez réalisé et tourné en RDC, à Matadi plus précisément. Et c'est une page de l'histoire de la RDC près de 100 ans après que vous vous apprêtez en fait à revoir. C'est un documentaire qui sera diffusé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous nous rejoignez aujourd'hui. La projection aura lieu demain au Lavoir moderne parisien. Ça s'appelle Les Relégués. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Ça va ?
Merci, oui, ça va très bien.
Alors, un mot sur Les Relégués. Alors, c'est une page de l'histoire de la RDC près de 100 ans après que vous vous apprêtez à fouiller, on va dire, à questionner à travers l'histoire du prophète Simon Kibangu. C'est le contexte historique, je rappelle, de 1921 à 1957. Les disciples de Kibangu étaient emprisonnés, puis relégués, disséminés dans toutes les provinces du Congo belge. Selon les archives, ces réfugiés furent près de 37 000 personnes. C'est un peu à ces personnes que vous avez voulu rendre hommage à travers ce film documentaire, c'est bien cela ?
Oui, c'est bien cela. Avant de commencer, je voudrais dire bonjour à mes frères congolais parce qu'ils écoutent beaucoup Africa numéro 1 le matin, là. Les Taximen, le mouvement du peuple congolais, les taxis Move, Babé Massombo, tout le monde, tous les Congolais, tous les Africains, bonjour. Oui, c'est une page de l'histoire qui est importante. Qu'on a tendance à oublier. Pourquoi ? Parce que on a été persécuté en RDC en 1921. Il y a un homme qui s'est levé au nom de Simon Kimbangu. Il a commencé son ministère, donc à réveiller ses frères congolais parce qu'on était sous occupation belge, faut le dire. Donc on avait des maltraitances, il y avait des atrocités qui se passaient, il y avait des choses tellement injustes qui se passaient. Moi, je dirais que Dieu a entendu notre souffrance et a envoyé, a élevé parmi nos frères un homme pour nous sortir de cette souffrance. Donc Simon Kimbangu, il a commencé son ministère, il faisait des choses extraordinaires.
Qui vous a raconté cette histoire ?
Mes grands-parents.
D'accord.
Qui ont été déportés.
D'accord.
Oui, mes grands-parents, quand Simon Kimbangu a commencé son ministère en 1921, mes grands-parents l'ont suivi. C'est-à-dire qu'il faisait des choses extraordinaires, il faisait des miracles, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades. Et quand les Belges, ils ont vu ces mouvements qui étaient en train de prendre forme, ils ont dit, il faut stopper ça, parce que sinon, les Congolais, ils allaient se révolter. Les Congolais, ils allaient les chasser de leur terre. Les Congolais, ils allaient plus supporter plus cette injustice. Et ils ont arrêté toute personne qui était près de Simon Kimbangu. Même si tu prononces seulement son nom, il fallait qu'on t'arrête. Il fallait absolument étouffer cette histoire. Il fallait pas que les Congolais sachent qui était Simon Kimbangu et c'était quoi sa mission au Congo. Donc, ils ont pris des gens, ils les ont jetés dans la jungle, dans la forêt, pour qu'ils se fassent manger par les animaux. Donc, et mes grands-parents, ils étaient parmi ces gens-là qu'ils avaient jetés dans la jungle. Ils étaient 37 000 familles. Donc, vous imaginez 37 000 personnes jetées dans la jungle pour étouffer un nom, un seul nom, Simon Kimbangu. Et quand moi, j'ai grandissé, je connaissais le nom de Simon Kimbangu. On m'a raconté cette histoire. Mais je ne savais pas réellement qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi on l'a arrêté, parce qu'il a été mis en prison pendant 30 ans quand même, condamné à mort, mais après, ils n'ont pas pu le tuer parce que c'était un homme qui était extraordinaire. Ils ont essayé de le tuer plusieurs fois, ils ont essayé de toutes les manières possibles de le tuer, ils n'ont pas réussi. Donc, il a été condamné à prison pendant 30 ans.
Ouais.
Et moi, en grandissant, comme tous les Congolais, je connaissais ce nom, Simon Kimbangu. Mais je ne savais pas plus.
C'est un nom très familier pour vous.
Voilà.
Et puis à un moment, vous vous êtes dit, il va falloir que j'aille faire mes propres recherches.
Non, c'est un nom qui pendant 2 ans, il y a 2 ans, ce nom-là était dans mon oreille. Simon Kimbangu, Simon Kimbangu. J'ai dit non, quand même, il faut que je sache c'est qui. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches.
D'accord.
Je suis devenue chercheuse.
Alors vous rendez en RDC ?
Non, pas du tout. Il y a un Congolais qui est à Liège, qui a cherché à nous joindre par rapport aux activités que nous faisons
Jean
par rapport à notre pays.
Jean Loutété, c'est ça ?
Oui, voilà.
Ouais.
Il est venu à la maison. En parlant, on s'est rendu compte qu'on avait la même histoire. Que lui aussi, ses parents étaient enfants des relégués.
D'accord.
Comme mon père.
Ouais.
Et que sa mère était vivante. Elle est née en 1938. J'ai dit, oh, c'est super ça. J'ai dit, mais j'ai envie de faire un film sur Simon Kimbangu, mais je ne savais pas sur quelle base, comment traiter l'histoire et tout ça, comment raconter cette histoire sans chiffonner les gens, parce que les gens, ils ont leurs croyances, mais c'est une histoire vraie. C'est une histoire que les gens ont vécue. On peut pas dire à ces gens-là, ce que vous avez vécu n'est pas vrai. Ce que les gens ont vu, ce qu'ils faisaient, fait de lui que c'était un homme extraordinaire. J'ai dit, j'aimerais bien raconter cette histoire. Alors, j'ai mon équipe de tournage à Kinshasa. Parce d'accord. que moi, par rapport aux activités que j'ai fait, je ne peux pas trop m'aventurer.
Pas trop souvent,
voilà, exactement. Ouais. On sait que c'est un gouvernement très dangereux, donc qui ne rigole pas.
Ouais.
Donc, du coup, j'ai préféré réunir mon équipe sur place là-bas. Ils sont partis jusqu'à Matadi. Ils ont filmé, ils ont commencé le documentaire. Mais ce qui était encore extraordinaire, c'est que la maman, elle a un livre.
Elle a un livre à sa possession
que son mari lui a laissé.
D'accord.
Et c'est un livre des notes que les Belges, des procès verbaux que les Belges tenaient à l'époque en fait.
D'accord.
C'est-à-dire quand on arrêtait quelqu'un, il fallait absolument voir son procès verbal, pourquoi on l'arrête. Et donc c'est un livre de 120 pages. Il y a Simon Kimbangu est dedans et il y a au moins il y a les noms de toutes les personnes qui ont été arrêtées.
Donc, ça a permis en fait de remonter, de peut-être retrouver des descendants de ces familles.
Voilà, exactement. Et aussi de confirmer les dires de la maman et des notes que les Belges avaient à l'époque. C'est-à-dire que comme c'est une histoire qui s'est passée, les deux devaient voir la même chose.
Ouais.
Donc, ça confirme en fait que voilà, c'est une personne qui a existé. Ils ont dit ceci sur lui. Elle a dit ceci sur lui. C'est une personne qui est là, qu'il faut absolument respecter. Parce qu'une personne qui a autant souffert pour les Congolais, les Congolais ne peuvent pas le négliger. Ils ne peuvent pas négliger Simon Kimbangu.
Alors justement, que deviennent les familles ou les descendants de ces 37 000 relégués? Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Bon, quand ils sont revenus, en 1960, quand on a eu l'indépendance, on a demandé à ce que les familles reviennent. Il y a seulement 2500 qui sont revenus. Sur ces 37 000 qui étaient partis.
Alors, je suppose qu'il y en a peut-être qui se sont, au fil du temps...
Voilà, habitués à vivre là-bas. Ouais. D'autres qui sont morts, qui étaient peut-être vieux. Des enfants qui sont nés. Donc, il y avait seulement 2500 familles, et dont mon grand-père. Mon père, il est né là-bas en 1954,
ouais.
en temps de déportation. Quand il est revenu, il avait 6 ans. Il avait 6 ans. Mais tellement il était petit... Il connaît cette histoire, il sait ce qui s'est passé, mais il a eu du mal à nous transmettre cette histoire comme il faut pour que nous puissions être fiers de cet homme qui s'est battu pour nous et de se dire que on a toujours tendance, les Africains, hein, ils ont toujours tendance à croire que Dieu les connaît pas. Alors oui, parce qu'on envoie des prophètes de l'islam, on envoie le prophète Jésus, mais quand il s'agit de nous, on a tendance, parce que Simon Kimbangu, dans ses dires, il n'est pas venu seulement pour les Congolais, il est venu pour toute la race noire.
D'accord.
Il est venu sauver toute la race noire, donc c'est un prophète pour toute la race noire.
Alors vous dites, presque 100 ans plus tard, ces prophéties commencent à prendre forme dans son pays. Quelles étaient ces prophéties?
Je peux vous en lire un?
Allez-y.
je vous ai ramené parce que je peux vous en lire. Alors, il a dit ceci, c'était le samedi 10 septembre 1921 à Mbanza Sanda, c'était au Bas-Congo. Il a dit ceci, il est à son peuple à 9h. « Mes frères, l'esprit est venu me relever que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un grand nombre de personnes. » Il faudra tenir ferme car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera pas et n'a jamais abandonné quiconque qui se confie en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie car elle vient de notre Dieu Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Ça, c'est en 1921 qu'il le dit, hein. Aussi, mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera et beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. C'est pas ce qu'on a, nous avons
fait. En fait, où on peut les trouver, ces prophéties.
Même sur le net, on peut trouver, soit on tape prophétie Kimbangu, on peut les trouver. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. C'est ça que nous voyons. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne rêveront plus leurs parents. C'est ce que nous voyons. Il y a des Noirs qui meurent ici, qui ne rentrent pas.
Alors, les relégués, la projection a lieu demain. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous rendre à 20h30 au Lavoir Moderne Parisien. C'est au métro Château-Rouge. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui nous écoute, qui est concerné ou non par cette histoire?
Moi, j'ai envie de leur dire de découvrir, parce qu'on est curieux de découvrir les autres. Pourquoi ne pas être curieux de nous découvrir nous-mêmes? Parce que c'est notre histoire. Je sais qu'ici, à l'école, on apprend l'histoire. Et pourquoi pas nous apprenons notre propre histoire. On attend seulement que les autres fassent. Quand une sœur fait, j'ai passé 2 ans à faire des recherches rien que pour raconter cette histoire. J'aimerais bien
trouver un producteur.
Voilà, oui, voilà, exactement. Le producteur, c'est mon mari qui m'a produit.
D'accord.
Voilà, parce que c'était important. Il m'a vu travailler pendant 2 ans. Il a vu que vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur.
Ouais.
Parce que ça fait partie de notre histoire qu'on doit découvrir. Et j'aimerais
bien. Et transmettre à vos enfants aussi.
Absolument, absolument. Et j'aimerais bien que mes frères. Tout le monde hein, qui vient de découvrir cette histoire, qu'on vient de découvrir cet homme, qu'on puisse respecter cet homme. On parle de Mandela qui a fait 27 ans de prison. Lui, il en a fait 30 parce qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué. C'est juste parce qu'il s'est levé contre les injustices qu'il y avait dans son pays. Donc, c'est...
Et je suppose que les discussions vont suivre la projection du film.
Absolument, parce qu'il faut absolument qu'on se mette d'accord, nous, les Noirs. Il faut qu'on regarde dans une même direction. Parce qu'on a embrassé plusieurs religions et lui, il n'a pas apporté une religion. Il a juste porté la bonne parole pour que nous soyons libres. Donc voilà.
Les relégués, la projection a lieu demain. Soyez nombreux au rendez-vous. C'est à 20h30 au Lavoir Moderne Parisien, 35 rue Léon, dans le 18e à Paris, au métro Château Rouge. Un numéro de téléphone, hein, si vous voulez le noter, le 07 51 57 77 10. 07 51 57 77 10. Merci en tout cas d'être venu, Nolda Diemasamba. On rappelle que vous êtes cinéaste et que vous êtes également porte-parole de l'association Mouvement du Peuple Congolais. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu sur le plateau de la Radio Africaine. À très bientôt.